L'invité du jour.
On considère qu'une traduction de la Bible doit être révisée à chaque génération, environ tous les 30 ans. Début 2025, l'Alliance biblique française a lancé la révision de la traduction œcuménique de la Bible, un chantier immense qui durera 5 ans et mobilisera une centaine de spécialistes. Alors pourquoi réviser? Pourquoi traduire ce texte aussi ancien pour des lecteurs aujourd'hui et comment le faire? Pour en parler, je reçois Jean-Claude Verrecchia, coordinateur des équipes de traduction de la traduction œcuménique de la Bible. Jean-Claude, bonjour et bienvenue sur Phare FM.
Bonjour.
On entend souvent qu'une traduction doit être réviser chaque génération. Alors, pourquoi ce cycle d'environ 30 ans est nécessaire?
Tout simplement parce que le public change, parce que les modes de communication évoluent, parce que il y a aussi des avancées ou des changements dans la manière de lire la Bible et des changements dans la langue aussi. On ne parle plus aujourd'hui comme on parlait il y a 20 ou 30 ans.
C'est tout cela qui a motivé la révision de la traduction œcuménique de la Bible en 2025. Est-ce qu'il y avait aussi des limites, des besoins nouveaux ou des avancées scientifiques à intégrer?
Oui, tout à fait. Je pense que le groupe qui était en charge, et ça remonte avant, ça remonte en 2016, le groupe qui était l'Association œcuménique de recherche de la Bible, qui était un groupe donc œcuménique, les gens qui faisaient partie de ce groupe ont dit « mais en fait, il faut qu'on révise ». Et ils ont pris la décision en 2016 et un test a été fait sur deux livres, « Osée » et « Galates ». Et il a fallu 4 ans pour sortir ces deux livres. Donc, vous voyez le temps que ça prend et donc on remonte à loin en arrière déjà.
Alors ce chantier, comme je l'ai dit, mobilise une centaine de spécialistes. Comment s'organise concrètement une révision aussi vaste? Surtout que c'est une traduction œcuménique, donc il y a toutes sortes de confessions dans le christianisme qui se rejoignent.
Tout à fait, donc les trois grandes familles, catholiques, protestants et protestants à la fois historiques et évangéliques, et aussi donc les orthodoxes. Alors, en fait, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué qui est important, c'est qu'on a une traduction donc qui inclut ces trois grandes communions, mais aussi et surtout, on a une traduction qui vaut pour toute la francophonie.
Alors, en traduisant, est-ce qu'on cherche davantage à être fidèle au texte original ou à être compréhensible pour le lecteur contemporain?
Donc ça, c'est une excellente question et qui fait sans doute la spécificité de la TOB, pas seulement de la TOB, mais de cette traduction, c'est-à-dire que c'est une traduction qu'on appelle à équivalence formelle, c'est-à-dire qu'on traduit ce qui est dit comme c'est dit. Ça veut dire qu'on privilégie le texte source. Ça, c'est vraiment le point important dans cette traduction. Et je vais faire la différence. Il y a d'autres traductions qui sont aussi valables, mais qui, elles, vont privilégier le lecteur, c'est-à-dire la cible. On ne peut pas faire les deux à la fois. Soit on privilégie la cible, et donc on va cheminer avec le lecteur et on va l'aider à comprendre ce que le texte veut dire, ou bien on lui donne une traduction qui colle à l'hébreu et qui colle au grec, pour simplifier.
Merci beaucoup Jean-Claude pour ces premiers éclairages sur la nécessité de réviser une traduction biblique. Dans un instant, on va aborder les enjeux théologiques et les choix qui président à une traduction destinée à un large public. Jean-Claude, je vous dis à tout à l'heure sur Phare FM.
Merci.
Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com/replay. L'invité du jour.
Dans la première partie, nous avons vu pourquoi la Bible doit être révisée régulièrement et comment la langue évolue d'une génération à l'autre. Dans cette seconde partie, nous allons explorer les enjeux plus théologiques et pratiques, les biais possibles dans une traduction, la quête d'exactitude et la question que beaucoup se posent, existe-t-il une « meilleure » entre guillemets traduction de la Bible? Jean-Claude Verrecchia, coordinateur des équipes de traductrices et traducteurs en charge de la révision de la traduction œcuménique de la Bible à la Société biblique française, est mon invité pour ce sujet. Jean-Claude, est-ce que toute traduction comporte nécessairement un biais théologique, même involontaire?
Oui, probablement. En fait, quand on traduit, on prend souvent l'image, on jette un filet sur le mot ou sur les mots. Quand on traduit, donc, il y a des mots qui sont là en hébreu et en grec, on jette un filet. Et en traduisant à plusieurs reprises, plusieurs types de traductions, on jette des filets, mais en fait, les mailles ne recouvrent pas toujours complètement ce qu'il y a en dessous. Donc, traduire, c'est forcément, dans une certaine mesure, interpréter.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'imposer des règles, des limites pour que finalement l'équipe de la traduction œcuménique de la Bible respecte les sensibilités chrétiennes qu'il y a au travers des différents membres?
Il y a des règles, mais qui sont des règles techniques, si vous voulez. On va dire par exemple, attention, il y a des notes, puisque la TOB est une Bible d'étude. Il y a des notes, ne faites pas en sorte que les... Par exemple, on dit ne donnez pas l'interprétation du texte dans la note. Laissez le lecteur découvrir. La TOB est une Bible d'étude, c'est-à-dire qu'elle est là pour des chercheurs. Ce n'est pas une première Bible. C'est une Bible pour des gens qui sont déjà habitués à la lecture, qui sont déjà intégrés dans un tissu ecclésial, probablement, dans une pratique religieuse. Elle est pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ceux-là, on les prend pour des adultes, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas « vous devez croire ceci ou vous devez croire cela, vous devez faire ceci ou vous devez faire cela ». C'est à vous de le découvrir et on vous donne tous les éclairages possibles pour que vous découvriez au plus vite et au mieux ce que le texte veut dire.
Alors beaucoup de lecteurs se demandent quelle est la meilleure traduction de la Bible. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ?
Ben, ce n'est pas une bonne question, je suis désolé. C'est pas quelle est la meilleure traduction de la Bible, c'est quelle traduction pour quel lecteur ? Si j'ai un ado, je vais leur donner une Bible qui a été faite pour eux, qui intègre une approche qui est une approche pour les teenagers, les adolescents, les premiers étudiants de la Bible, où on leur montre déjà le chemin. Et ça, c'est une obligation. On ne peut pas les laisser seuls en race campagne en leur disant « maintenant, tu te débrouilles avec le sens du texte ».
Est-ce que vous espérez que cette nouvelle révision va changer des choses pour les lecteurs de la Bible dans les années à venir ?
Je pense qu'à force de traduire, et pas seulement nous, on finit par prendre les pépites, là, les pierres précieuses qu'on a tirées du sol, là, enfouies, on les nettoie, mais à force de les nettoyer, de les polir, etc., elles deviennent de plus en plus brillantes.
Traduire la Bible, c'est à la fois transmettre un héritage millénaire, mais également l'offrir à une nouvelle génération. Pour suivre le chantier de la traduction œcuménique de la Bible, rendez-vous sur alliancebiblique.fr/révision-tob. Merci beaucoup Jean-Claude Verica pour cet éclairage et pour le travail mené avec l'équipe de révision.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com/replay.